With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, là, tout de suite, se présente à vos oreilles amies sous sa forme compacte mais terriblement efficace. C'est l'Extra Ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film ou une série du moment. Un film, en l'occurrence, puisqu'on va prendre une poignée de minutes pour causer de Sicario, la guerre des cartels, suite du film de Denis Villeneuve, mais sans Denis Villeneuve aux commandes. On va en parler avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Sicario, la guerre des cartels, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Day of the Soldado en VO. Plus de Villeneuve, on l'a dit. Derrière la caméra, c'est l'italien Stefano Solima qui, outre le fait d'être le fils du légendaire Sergio Solima, est surtout assez doué comme garçon. On avait ainsi beaucoup aimé et défendu ici même son Suburra il y a quelques années. Le voilà donc aux commandes de cette suite de Sicario. On retrouve le duo Josh Brolin-Benicio del Toro, toujours associé dans la lutte contre les trafiquants de drogue et qui ici se mettent en chasse d'un ex-ponte des cartels mexicains désormais à coquiner avec des terroristes. C'est bien ça, Stéphane?
Oui et non, c'est pas tout à fait ça finalement le plot au final, mais c'est surtout en fait des manigances politiques. Moi j'aimerais revenir, bon, on avait fait une émission sur Sicario à l'époque.
Tout à fait.
J'avais participé, donc je pense que les gens peuvent réécouter ce que j'en avais pensé, c'est-à-dire pas grand chose, quoi.
pas grand chose de bien, voilà, ouais, pas grand chose de positif.
Et en fait, le je pense que ce qui était pas, enfin ce qui, enfin si, parce que en gros on le sait, mais ce qui est encore plus évident quand tu vois cette suite qui est vraiment excellente. C'est que la grosse erreur de casting du premier Sicario, c'était même pas vraiment Emily Blunt, ni oui. ce plot en fait d'espèce de brebis blanche égarée au milieu
des méchants.
Voilà, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus conçu comme un film d'action, mais je pense que c'était le problème du Sicario justement original, c'est que c'en était un en fait, c'était vraiment un film d'action que Villeneuve visait, on va dire, si tu veux,
qu'il assumait pas vraiment quelque part.
Voilà, c'est ça, ouais, d'une certaine manière, et là c'est vraiment un film d'action, mais c'est aussi un film politique, c'est aussi un film sur les frontières américaines et toutes les problématiques, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit déjà les critiques américains se reprocher au film de ne pas être un film actuel, c'est-à-dire que en fait de ne pas parler de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire les lois sur l'immigration, la séparation des familles, tout ça, etc. Mais il se trouve en fait que c'est une vision que je trouve assez binaire, parce que c'est pas comme si les problématiques d'immigration s'étaient nées avec Trump en fait aux États-Unis.
C'est
donc
pas très récent. Pour
voilà, c'est ça. Donc c'est un peu étrange en fait de considérer que c'est Trump le problème, alors qu'il ne fait que lui que le rendre plus visible et plus grave, problématique,
hein. Oui,
et plus grave,
sûr,
évidemment. Oui. Mais voilà. Et je pense que justement, c'est exactement l'inverse. C'est très très bien, je trouve, qu'un film comme Sicario 2 ne joue pas cette carte de l'actualité, mais qu'elle parle du problème, on va dire presque, comme une toile de fond, en fait, si tu veux. Et que donc, quelque part, ce soit un film d'action. C'est un film qui se concentre énormément sur le personnage de Benicio del Toro. Qui moi me posait un petit peu problème dans son traitement dans le précédent, parce que je le trouvais un petit peu trop fantasque, pas assez humain, trop d'un bloc en fait, si tu veux. Et là en fait celui-là l'humanise énormément, y compris, alors une façon en fait alors c'est très difficile d'en parler sans spoiler, donc je vais pas spoiler, parce qu'il faut vraiment, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose en fait qui se passe dans la dernière demi-heure, qui est quand même assez fort, mais qui a un espèce de retournement de situation que parce que justement le film est joué de manière assez straight et assez directe, tu l'achètes complètement, quoi. Et jusque dans des références extrêmement osées, je dirais pas plus que ça, mais le dernier plan du film, c'est le dernier plan du parrain. Ouvertement, c'est-à-dire que, et la référence, elle est juste, elle se pose là, en fait, si tu veux, et c'est une manière de dire, Ouais, c'est une manière de dire le gouvernement, c'est la mafia, quoi. Enfin, je veux dire, en gros, c'est ce qu'ils ont besoin, à quel moment ils en ont besoin, et en fait, les mains basses qu'ils exploitent, les barbouzes, en fait, qu'ils balancent sur le terrain pour mettre ça en place, quoi. C'est exactement la même équipe, à part Solima, en fait, c'est exactement la même équipe que le premier.
Que le précédent, ouais.
C'est difficile de savoir exactement, j'ai l'impression que c'est une suite, mais c'est difficile de savoir exactement quand est-ce que ça se situe par rapport au premier, parce que finalement, les événements du premier sont extrêmement peu,
exploités
et relatés, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est l'idée de créer une espèce de guerre des cartels de l'autre côté de la frontière, et en fait, pour manipuler l'audience, en fait, je veux manipuler les médias
public,
et le public, et en gros utiliser les personnages de Brolin et Del Toro en fait comme des hommes de main qui exécutent le sale boulot, quoi. C'est assez marrant parce que quand ces personnages commencent à avoir des états d'âme, même si c'est encore une fois c'est très succinct, t'as une ou deux phrases, notamment le salopard du gouvernement est interprété ici par Catherine Keener, quoi, qui est encore une fois assez bien vu comme casting, quoi, qui en gros lui dit mais depuis quand, enfin quand Brolin plus ou moins lui fait remarquer les méthodes qu'il demande à employer, fait, mais depuis quand tu... Enfin, pourquoi c'est nouveau pour toi, ça? Et toute cette phrase, elle résume finalement, en fait, si tu veux, le fonctionnement de la politique américaine au créer des frontières, quoi. Si tu veux, à la façon dont ils gèrent ce genre de problématiques, tout en mettant en avant, suivant les gouvernements, la possibilité de faire rentrer des gens, de faire jouer l'American
Life.
Plus
grande ouverture.
Voilà, c'est ça, exactement.
Une ouverture plus ou moins grande.
Ouais. Voilà. Donc le truc, c'est que c'est encore une fois, c'est très difficile, moi je trouve, de parler du film
sans s'avancer trop,
parce que je pense que. En fait, il y a, c'est-à-dire que c'est vraiment un double retournement de situation, le truc final. Je pense que les gens, quand ils auront le film, ils comprendront de quoi je veux parler, parce que c'est tellement évident et c'est tellement voilà. Et même pour toi, j'ai pas envie de le spoiler puisque t'as pas vu le film, quoi. C'est vraiment vraiment dommage. Ouais. C'est un peu difficile parce que voilà, c'est un espèce de double retournement de situation qui joue en fait sur l'humanisation du personnage de Del Toro, qui va pas vraiment au terme de sa vengeance d'un point de vue, on va dire, strictement scénaristique. Mais par contre, d'un point de vue humain, joue vraiment avec cette tâche-là, quoi. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant là-dedans, c'est que t'as notamment, en fait, pour jouer cette guerre des cartels, ça je peux le dire, pour jouer cette guerre des cartels, en fait, si tu veux, ils doivent kidnapper la fille d'un chef de gang, en fait, si tu veux, d'un grand chef de gang. Et ce qui est très, très, très intéressant, en fait, dans leur façon de faire le truc, c'est que t'as, cette gamine qui est formidable, en fait, t'as limite, t'as l'impression d'être dans un Shane Black, parce que c'est une gamine de 13 ans qui est, en gros, la fille d'un chef de cartel qui a été élevée dans une école catholique, mais qui est un charretier pas possible. elle a 15 ans, je sais pas, mais elle est hyper badass, tu vois. Et ouais. Voilà, quoi, tu vois tout de suite que c'est la gamine qui pourrait reprendre les affaires de papa et tout, quoi, tu vois. Ce qui donne déjà un enjeu, si tu veux. Voilà. Et t'as un autre truc, c'est qu'on le voit jamais, son père. Donc tu ne vois que la force de frappe du mec. Et tout ça, en fait, c'est ça que je trouve assez formidable, en fait, dans le film. C'est-à-dire, c'est Darius Volsky à la photo cette fois, c'est pas Dickens comme c'était le cas sur le premier. Je trouve que Dickens chez Villeneuve en général, c'est
pas forcément une bonne idée.
Bah, c'est-à-dire que Dickens en soi, le problème c'est que je pense
l'appareillage fonctionne pas très bien.
Ouais, puis enfin les images elles sont censées raconter aussi quelque chose, et là c'est un peu vide en général. Là c'est Darius Volsky. Moi je trouve que c'est pas le même style, hein. C'est un style qui est plus sec, qui est plus c'est aussi un style plus direct et qui joue en fait
pour le coup au style de Solima,
totalement, mais c'est moins lyrique, c'est à dire que alors voilà, si tu connais Acab et bon surtout Subura, c'est beaucoup moins lyrique, c'est beaucoup moins et puis c'est beaucoup moins monté en strat, en fait, si tu veux, c'est à dire que c'est beaucoup plus en sous-main. C'est le même scénariste, hein, que le précédent, c'est à dire Taylor Sheridan, et c'est vraiment joué sur je pense ce qui fait ressortir, en fait, ce que Solima fait vraiment ressortir, c'est l'humanité des personnages et la façon dont qui pour moi en fait fait, ils n'existaient pas dans le précédent. Et tu sais, nous, bon, les critiques de cinéma, on a plein de théories, on a plein de comment dire, voilà, et, tu vois, et je crois qu'on en parlait vaguement à l'époque de Jurassic World 2, là, quand on a fait l'émission.
Ouais.
Moi, j'ai un peu cette théorie que c'est très difficile, en fait, de faire un grand film après, en se basant sur un premier mauvais film, en fait, oui. Si tu veux. Mais là, en l'occurrence, Sicario 2, c'est vraiment le contre-exemple qui confirme, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que je pense, encore une fois, voilà, que l'erreur de casting, c'était vraiment les affrêteries un peu prétentieuses de Villeneuve, en fait, qui n'avaient pas lieu d'être, en fait, dans ce film-là, parce que c'était vraiment une façon d'entreprendre le film de manière complètement, déjà désincarnée, mais aussi, à contresens presque, en fait. C'est-à-dire que toutes les scènes de tension tombaient à plat pour moi, etc., etc. Alors que là, en fait, justement, un mec comme Solima, qui est un mec qui vient de là, en plus, on va pas rappeler qui est son papa, quoi, tu vois. Donc, t'as énormément de scènes westerniennes, en fait, dans le film qui sont formidables. Et encore une fois, la dernière demi-heure, ça se pose là, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment à voir pour. Enfin, moi, je sais que cette dernière demi-heure. J'avais pas des réserves avec le film, mais je me disais, OK, il veut aller où le film exactement? Oui. Là, ça raconte quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Et oui. En fait, quand tu vois là, toute la dernière demi-heure, tu dis, OK, c'était ça. C'est ça l'enjeu. Très bien. Et je veux pas survendre le truc, hein. Il découvre pas le marteau de Thor, il se passe pas ce genre de truc, hein, mais voilà, c'est vraiment.
Est-ce qu'il y a une scène post-générique?
Alors non, bah j'espère que non, parce que là, je suis pas resté jusqu'au bout, mais j'espère que non, parce qu'avec le dernier plan du film,
oui,
si encore une fois
fait
ce
tempo,
ça serait vraiment dommage de rappeler ça, chez Marvel, il l'aurait fait. mais non. Et voilà, donc c'est cette humanité en fait qui fait ressortir complètement. T'as notamment une très belle scène où, parce qu'ils sont vraiment perdus dans le no man's land, en fait, si tu veux, de la frontière, et ils tombent sur un paysan, et il leur demande de l'aide, quoi. Enfin, un mec comme Benicio del Toro, la façon dont il est présenté dans le premier film, tu te dis, mais c'est pas un mec qui a besoin d'aide.
Non,
t'as l'impression que c'est juste le barbouze. Enfin, c'est limite, c'est Steven Seagal, hein, dans le premier, quoi.
Complètement.
Tu vois, voilà. Là, c'est pas du tout ça, tu vois. Et d'un seul coup, je te dis, là, tu te retrouves avec une espèce de scène très, très belle, très, très, et qui, pour moi, vaut tous les beau plan de Roger Deakins dans le premier, quoi, finalement, parce que c'est ça, en fait, c'est ça le cœur du truc. C'est, je pense, c'est le meilleur des deux mondes, en fait, quand tu te retrouves avec ce qui est un peu dommage, en fait, c'est que tu regardes aux États-Unis, ils le vendent un petit peu comme un espèce de Scarface like, tu vois, avec de la musique du gangsta rap, des machins, et c'est dommage parce qu'ils essayent d'attirer le beau Faras qui se tape Scarface et l'impasse et tout ça, et le beau Faras hip-hop, quoi, un peu, tu vois, et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment, déjà, le film n'est pas comme ça, le film est vraiment contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas du tout, il n'y a pas un moment donné où d'un seul coup tu te dis tiens, il manque une scène, tiens, machin, c'est vraiment contrôlé là-dessus. Tu sens que Solima a pu faire ce qu'il voulait, dans le cadre de Sicario, hein, évidemment. C'est la meilleure performance de Josh Brolin aussi cette année, parce qu'il était quand même dans deux autres gros films, voilà, et moi je le trouve vraiment, vraiment excellent, alors que c'est limite un second rôle, là, dans celui-là. Quand je dis c'est le meilleur des deux mondes, bah, c'est à la fois un film d'action, en tout cas un film de tension, un film de... Voilà, et qui est très efficace là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux le regarder, comme un film comme ça. Et c'est en même temps un film qui en filigrane, en fait, si tu veux... met en exergue les pratiques du gouvernement. Alors, on n'est pas le personnage d'Emily Blunt, on sait qu'il y a ce genre de choses qui existent, aujourd'hui. On est dans un monde un peu opaque. Mais c'est bien, je trouve, en fait, justement, parce que c'est devenu vraiment, vraiment rare, en fait, que des films mettent ce genre de choses en avant. Sans jamais se poser. Mais bon, j'ai l'impression qu'il faut toujours un Européen, en fait, ou un étranger aux États-Unis pour venir
pour
parler de ça.
Pour réussir à mettre le doigt là-dessus.
Voilà, mais c'est vraiment bien, en fait, que ça puisse exister. Moi, je pense que la critique va lui taper un peu sur la gueule parce que, j'ai l'impression, en fait, que les gens lui reprochent justement qu'il y a un manque de prise de position. Mais moi, je pense que justement, l'alternance des gouvernements ne change pas vraiment les méthodes. C'est juste qu'elle les amplifie un plus ou moins bien, tu vois. Et en tout cas, dans l'œil du public, quoi, dans l'œil des médias. Et c'est bien, en fait, qu'un film comme ça rappelle, en gros, si tu veux, qu'on n'a pas besoin d'être d'un bord
politique.
Ouais, c'est ça, quoi. Dans le côté police du monde des États-Unis, quoi. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un film qui remettait ça en avant. Encore une fois, dans le cadre d'un récit westernien très direct, sans fioritures, très violent, ça a beaucoup d'impact, assez subtil, je trouve, aussi dans sa façon de présenter les personnages, c'est que ça pourrait vraiment être, encore une fois, des blocs monolithiques. C'est pas du tout le cas. Donc ouais, donc moi je conseille vraiment, et puis essayez éventuellement de pas vous faire spoiler avant de le voir, quoi.
Et ce ne sera pas à cause de nous.
Voilà, exactement. Pour une fois, ça sera pas à cause de nous.
Pour une fois, ce sera pas à cause de nous. Il ne sera pas dit que ce sera notre faute. Sicario, la guerre des cartels, c'est au cinéma en ce moment. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci à Juliette à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, que les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.